Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Vivante Église pour ce numéro consacré à un événement très important qui a lieu à l'Institut catholique de Toulouse les jeudi 9 et vendredi 10 avril. Il s'agit d'un colloque sur le thème « La synodalité en Église et maintenant ». Il est organisé par l'Institut supérieur des sciences religieuses. Nous allons en parler dans quelques instants avec mes trois invités. Et je souhaite la bienvenue à ces trois invités. Bienvenue à sœur Anne-Claire Favry, professeure d'ecclésiologie à l'Institut catholique de Toulouse. Vincent Grégoire Delory, maître de conférence en philosophie également à l'Institut catholique de Toulouse. Et le père Jean-Michel Poirier, vice-recteur de l'Institut catholique. Vous êtes tous professeurs à l'IERP. Je précise que vous êtes également membre du comité scientifique qui organise ce colloque des 9 et 10 avril. Avant de parler de l'événement lui-même, de sa programmation et de ses intervenants, il me semble essentiel de rappeler ce qu'on appelle la synodalité. Qu'est-ce que recouvre précisément ce terme au sein de l'Église catholique, sœur Anne-Claire?
La synodalité, c'est une manière de vivre en Église, en faisant chemin ensemble, de manière à se laisser conduire ensemble par le Seigneur pour la construction de son Église. Pour définir, je peux reprendre quelques expressions du document final du synode sur la synodalité qui a eu lieu ces dernières années. Voilà ce qui est dit en termes simples et synthétiques. On peut dire que la synodalité est un chemin de renouveau spirituel et de réforme structurelle pour rendre l'Église plus participative et missionnaire, c'est-à-dire pour la rendre plus capable de marcher avec chaque homme et chaque femme en rayonnant la lumière du Christ.
Oui, alors vous faites allusion donc à ce synode sur la synodalité qui s'est tenu sur les années 2023-2024, tout récemment. Et il faut dire que cette question de la synodalité a été quelque chose de très central dans le pontificat du pape François. Peut-être qu'on peut dire un mot là-dessus, père Jean-Michel.
Effectivement, c'est le pape François qui a rappelé cette dimension essentielle de la vie de l'Église. Ce n'est pas du tout lui qui l'a créée. En fait, l'Église est synodale depuis ses origines. Mais il se trouve qu'on l'avait peut-être oublié. Et donc régulièrement, on redécouvre dans un fond riche des éléments qui sont essentiels. Et il est apparu au pape François que c'était essentiel dans une église multiple, une église qui est encore constituée de différents membres, et bien que ces membres puissent ensemble se mettre donc à l'écoute de ce que l'Esprit dit à l'Église ou aux églises, mais en même temps, le partager, discerner ensemble. Et alors après, et on va sans doute en reparler, il y a le rôle des ministres qui sont se chargés de conduire la vie de l'Église, mais on ne peut pas conduire la vie de l'Église sans discerner ensemble. Et donc c'est cet équilibre entre synodalité et collégialité, peut-être qu'on aura aussi à définir cet autre terme, qui se joue en ce moment. Mais donc on peut dire que c'est le pape François effectivement qui a initié cette démarche. Il a voulu donc un synode des évêques. Et alors ce qui était nouveau dans ce synode des évêques, c'est qu'il y avait des laïcs avec le même pouvoir de décision et de prise de parole que les évêques. Ce n'était pas simplement un synode d'évêques. Et pour la première fois, je crois, Anne-Claire, tu me détrompes si je dis faux, pour la première fois, des femmes qui avaient ce pouvoir de voter, de discuter et de voter au cours de ce synode. Et dans l'événement que nous organisons donc à Toulouse, à l'IERP, à l'ISSR, les 9 et 10 avril prochains, il y aura la Française qui a été membre de ce synode, avec donc droit de vote, Anne Ferrand, qui est d'ailleurs une de nos anciennes étudiantes.
Et qui donc sera une des intervenantes de ce colloque. Vincent Grégoire Delory voulait peut-être préciser quelque chose par rapport à ce qu'a dit le
pas
père
vraiment préciser, pas vraiment préciser, simplement pour ajouter une simple témoignage. Nous sommes autour de la table une religieuse, un prêtre, un laïc. Et de fait, on pourrait se dire facile, c'est facile à définir, un prêtre, une religieuse, un laïc, c'est facile à définir. Ben pas tant que ça, finalement. Pour beaucoup d'entre nous, c'est pas si simple. Quels sont les ministères? Comment on s'articule? Comment ça se passe? D'ailleurs, de fait, depuis le début de l'Église, d'ailleurs, Cyprien de Carthage, Irénée de Lyon, tant de personnes réfléchissent sur ces questions-là. Et de fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, dans la mesure où ce mot synodalité qui a l'air si bizarre, si ésotérique, est en fait une chose banale qu'on retrouve tout au long de l'histoire de l'Église. Et de fait, ça va nous permettre de mieux discerner ensemble des choses, de mieux comprendre ensemble des enjeux vraiment qui se posent de nos jours et pour tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, ce colloque est ouvert à tous, est ouvert réellement à toute personne désireuse de se renseigner, d'approfondir ses connaissances sur un sujet dont on a souvent entendu parler, mais dont on ne connaît pas si bien que ça les enjeux. Et pour terminer mon témoignage, je dirais que quand on parle de synodalité dans les paroisses, par exemple, on se rend compte qu'il y a une sorte de presque de paradoxe assez intéressant où on veut toujours que tout change, mais que rien ne change. Vous savez, c'est comme le guépard, hein, il faut que tout change pour que rien ne change. Et donc, on voit bien que dans les paroisses, il y a cette espèce à la fois des attentes, puis à la fois parfois aussi des craintes. Crainte que tout s'étiole, que tout s'efface, que la tradition ne soit plus là. Et donc, effectivement, ça demande de bien saisir le sens même du mot synodalité.
D'où la nécessité de faire toutes ces précisions, celle-ci étant faite. Quelle est la raison d'être de ce colloque, précisément en 2026, la synodalité en Église et maintenant, et quels sont ses objectifs, Sœur Anne-Claire?
Alors, un constat, le synode sur la synodalité a passé un cap d'achèvement, mais pas vraiment d'achèvement, puisque assez vite la question est venue de la suite. Nous sommes dans une phase de mise en œuvre renvoyée aux églises locales, avec un projet d'une évaluation de ces mises en œuvre au cours des années à venir, puisque la prochaine étape pour l'Église universelle, c'est octobre 2028, avec une ressaisie des tentatives de mise en œuvre et le discernement de ces mises en œuvre. Donc on est en fait dans un... pas seulement dans un acte de réception, mais un acte, le synode en fait continue à travers ses mises en œuvre. Mais en même temps, on constate que dans l'Église, la tendance, c'est d'avoir tourné la page. Et on n'entend plus beaucoup parler de la synodalité, d'où le titre que nous avons donné à ce colloque, « La synodalité est maintenant ».
Oui, parce que si je comprends bien, il y a des freins encore qui ont l'air de persister au sein même de l'institution, Père Jean-Michel.
Tout d'abord, la synodalité, c'est un mouvement. Et beaucoup ont été sans doute déçus de ce que le synode romain, qui a eu donc deux sessions 2023-2024, n'accouche pas d'une série de décisions. Est-ce qu'on va pouvoir enfin ordonner des hommes mariés, ou enfin avoir des femmes diacres, ou enfin ceci, ou enfin cela, voilà. Et il y a eu une grosse phase, je crois, effectivement, de déception. Et puis là-dessus est venue la mort du pape François. Et est-ce qu'on va enterrer la synodalité en même temps que le pape ? Et il a été tout à fait significatif que le nouveau pape, dès sa prise de parole, a employé ce terme à nouveau. Et il l'a fixé également lors de sa première adresse aux cardinaux deux jours après son élection. Il l'a fixé comme un cap, alors avec, si je puis dire, le contrepoint de la collégialité. Donc on aura sans doute à revenir au cours de ce colloque là-dessus. Donc effectivement, il y avait, comme l'a dit Sœur Anne-Claire, dans le peuple de Dieu, beaucoup qui disent on n'en entend plus parler, ou alors ça a accouché de pas grand-chose, donc on oublie. Et puis, il y avait aussi, on a un nouveau pape, est-ce que ça va... Puisque le pape François, c'était un de ses dadas, il est mort.
Oui, est-ce qu'il passe, va prolonger
Est-ce qu'on passe à autre chose? Et d'où la question et la synodalité, et maintenant. Mais comme cela vient d'être dit, je crois que la synodalité, c'est un mouvement. On a souvent dit que le Concile Vatican II n'était pas encore pleinement reçu, qu'il allait falloir en compter encore de nombreuses années avant qu'il soit vraiment reçu dans le peuple de Dieu. C'est-à-dire que de ces grands mouvements, des dizaines et des dizaines d'années avant que ça passe véritablement.
Donc il faut relancer sans arrêt.
Il faut relancer. Manière. Alors, en France, je pense qu'on a aussi des circonstances qui sont favorables pour cela. C'est-à-dire que depuis 20, 30 ans, sans doute plus, de nombreux laïcs sont engagés de manière responsable dans la vie de l'Église. Par exemple, moi je suis dans le diocèse de Montauban et à côté du vicaire général, l'évêque de Montauban a nommé il y a un an et demi une laïque déléguée générale. Et d'ailleurs les deux viendront témoigner au cours de notre colloque sur cette manière-là nouvelle de vivre un partage des responsabilités. Et je crois qu'il y a plein d'initiatives comme cela qui se vivent déjà, si vous voulez. En réalité, la synodalité, on la vit déjà depuis un certain temps, au sens moderne du terme, je veux dire. Et ça se développe. On aura également Mgr Valentin, l'évêque de Carcassonne, qui sera là pour nous dire comment il vit la synodalité dans un diocèse rural. Et donc, au cours de ce colloque, il n'y aura pas simplement de la réflexion théologique, mais il y aura aussi un retour d'expérience
du terrain. Déjà
du terrain.
Il y a quatre temps lors de ce colloque. Quels sont ces quatre temps et quels thèmes vont être abordés lors de chacun d'entre eux?
Donc quatre demi-journées en fait.
Hein, oui.
Le jeudi 9 avril au matin, nous allons commencer par une relecture théologique de l'expérience synodale, donc de ces deux sessions de 2023-2024, avec des intervenants qui ont été des chevilles ouvrières de ce synode, puisque nous avons la joie d'accueillir des personnes donc, qui étaient déléguées au synode.
Ah, vous pouvez peut-être d'ailleurs présenter, hein, avant qu'on parle vraiment de toutes les thématiques abordées, tous les intervenants hein, de ce colloque, enfin tous, en tout cas les principaux, ceux que vous avez souhaité convoquer, parce que bah, justement, ils vont avoir ou un retour d'expérience du terrain.
Cher Eric, nous les avons invités, non pas convoqués.
Bon, alors, ils avaient donc le choix de ne pas venir, c'est ce que vous voulez dire.
Mais justement.
Mais fort heureusement, apparemment, ils ont tous accepté.
Alors, oui, il y en a un seul, parmi les invitations qui ont été lancées, un seul qui n'a pas pu venir parce qu'il avait des contraintes familiales, c'est M. Join Lambert. Mais tous les autres, et ça nous a... Enfin, c'est dire l'importance, ça aussi, de
ça
se retrouver ensemble.
Aussi,
ça nous a conforté. Donc, effectivement, il y a Anne Ferrand, qu'on a mentionné tout à l'heure, qui était donc la laïque française. Hein. Mais on a également Mgr Alexandre Joly, l'évêque de Troyes, qui faisait partie de la délégation.
De la région,
effectivement, voilà. Et puis, alors, on a le père Christophe Théobald, qui est un théologien bien connu, qui était au synode, mais plutôt dans les coulisses, si je puis dire, à titre d'expert, et qui est quelqu'un qui réfléchit de manière à la fois puissante et originale, et en même temps audible par tous, qui sera là également pour notre colloque. Et puis on aura Sœur Nathalie Bécard, la religieuse xavière française, qui vient de Rome, parce qu'elle est la numéro 2 donc de l'organisme romain chargé d'organiser l'ensemble des synodes. Donc elle est techniquement la sous-secrétaire du synode des évêques et elle a participé, et à quel titre, à l'organisation du colloque romain, mais elle continue à rester à Rome, à travailler là-dessus. Donc vous voyez, on va vraiment avoir des personnes qui ont participé et donc on va avoir un retour d'expérience également, ou des témoignages, hein, sur ce qui a été vécu dans le synode. Parce que, en fait, la manière dont le synode, dont ces deux sessions du synode à Rome se sont déroulées, était déjà significative de la manière de vivre l'Église synodale.
Oui, alors pour parler des gens qui viennent de loin, il y a Marie Florin qui vient de Louvain. Alors je ne sais pas dans quel domaine elle va intervenir, mais quelqu'un qui vient du Québec aussi, Gilles Routier.
Oui, Gilles Routier. Alors, simplement pour Nathalie Florin, effectivement, on avait invité Arnaud Join Lambert, qui n'a donc pas pu venir pour des raisons familiales, et qui nous a suggéré le nom de cette personne qui vient de soutenir une thèse de doctorat, précisément sur ce thème-là. Et donc, vous voyez, il y aura une Belge,
vous
l'avez souligné, donc Louvain. Et alors, on a un grand théologien, un grand ecclésiologue qui s'appelle Gilles Routier, qui maintenant n'enseigne plus, mais qui est vraiment un des grands noms de l'ecclésiologie, qui vient du Québec. Et puis on aura également un Italien, le père Michele Roselli, qui est vicaire épiscopal pour la formation du diocèse de Turin, qui est un diocèse assez en pointe sur la mise en œuvre de la synodalité. Donc on aura une vue plus ample que... Et pour ça, c'était très important, hein, je m'adresse à mes deux collègues, hein. C'était pour nous très important d'avoir cette dimension internationale. Parce que parfois, on aborde les choses uniquement sous l'angle français.
Franco-français, oui.
Franco-français. Et donc là, alors, toutes ces personnes-là s'exprimeront en français.
Oui, alors plus près de nous, plus près de la région plutôt, donc deux personnes du diocèse de Montauban, Jérôme Pinel et Laurence Sabrazès.
Oui, donc je les ai mentionnés tout à l'heure, c'est le vicaire général et la déléguée générale. Et donc, ils témoigneront ensemble, donc ça sera à deux voix, sur la manière dont ensemble ils animent. Mais voilà, c'est quelque chose de nouveau, parce que le diocèse de Montauban, ce n'était pas évident il y a 5 ou 10 ans d'avoir une laïque qui soit déléguée générale et qui soit chargée notamment de coordonner l'ensemble des services du diocèse de Montauban. Voilà. Et donc, ils témoigneront de cela. Puis je rappelle que Jérôme Pinel, on a en fait, avec Anne-Claire, enfin c'était Anne-Claire qui avait été la cheville ouvrière, il y avait eu un premier colloque sur la synodalité. Il y a quelques années.
Au moment où le pape François avait lancé le processus, puisqu'avant 2023-2024, il y a eu une phase en église locale, en diocèse, qui avait été lancée dès 2021. Et donc, en fait, quand le pape a lancé ce projet, nous avons fait une session, mais à plusieurs voix, là plus sur le fond théologique, en fait, de la question synodale.
Voilà. Et Jérôme Pinel était intervenu justement dans cette session. Et je signale que ça a fait l'objet d'une publication dans la collection Théopraxis, publiée par Parole et Silence et les presses universitaires de l'Institut catholique de Toulouse.
Oui, et puis nous aurons le frère Benoît-Marie de la Soujolle, qu'on connaît bien à Radio Présence, qui est un dominicain de Toulouse, qui enseigne également à l'Institut catholique de Toulouse. Puis vous avez cité Monseigneur Bruno Valentin, l'évêque de Carcassonne, qui donc interviendra. Alors, ça commence à 9h, hein, les matins,
c'est ça,
oui. Les deux journées. Et la première journée, vous allez commencer directement avec Anne Ferrand, justement,
hein, c'est ça,
diocèse de Rodez.
La première matinée est donc destinée à une relecture de l'expérience synodale, proprement dite. Ensuite, l'après-midi sera une série de témoignages, partage de pratiques synodales nées autour ou après le synode, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas attendu le synode pour vivre dans l'église de ce courant synodal.
C'est-à-dire que les pratiques synodales existaient déjà.
Hein, c'est ça.
Du synodal sans savoir que M. Jourdain fait de la prose.
Exactement.
Tout à fait. Alors, dans ce partage des pratiques synodales, c'est là qu'interviendra donc Nathalie Bécard, qui nous fera un panorama de la réception de ce synode dans le monde. Et puis ensuite, donc, alors on a parlé de Michele Roselli qui va nous parler de l'expérience de Turin à propos des ministères institués suite aux deux motu proprio du pape François, dont nous commençons en France à se poser la question de comment ça peut être mis en œuvre. La conférence des évêques de France se saisit actuellement de la question. Eh bien, de ce côté-là, le diocèse de Turin est un petit peu en avance. Et on aura retour d'expérience.
Alors, on va rentrer dans le détail vraiment de chaque intervention. Je voudrais juste préciser les quatre temps,
hein, oui, pardon.
Les intitulés des quatre temps, pour qu'on ait une vision globale.
Alors, le vendredi matin, il n'y aura pas de conférence ou d'intervention, mais ce sera des ateliers. Alors, les personnes présentes ou à distance pourront suivre deux des trois ateliers. Ils tourneront en milieu de... Donc,
voilà,
il y aura un atelier sur le...
qu'on peut suivre, effectivement. C'est ça. En distanciel.
En distanciel. Donc il y aura un atelier sur le chemin canonique resserré de la synodalité contemporaine. Donc c'est plutôt l'approche canonique, mais qui est très importante. Il y aura un second atelier sur la formation des acteurs ecclésiaux, que j'animerai avec Marie-Véronique Dupasquier. Et il y aura un troisième atelier, mettre en œuvre la synodalité en paroisse, avec deux personnes qui viendront du diocèse de Pamiers, le père de la Portalière, et Madame Violaine Deguay. Et on retrouvera l'après-midi du vendredi quelques grandes interventions, mais ça se terminera par une table ronde, c'est pas mais, et ça se terminera par une table ronde avec tous les intervenants qui sont encore là, parce qu'il y en a certains qui ne viendront que la première journée, et on se saisira aussi de l'ensemble des questions qui auront été soulevées chemin faisant.
Oui. Alors ça, on y viendra parce que je vous poserai la question, bien sûr, à la fin du colloque. Est-ce qu'il y aura une espèce de synthèse de tout ce qui aura pu être dit et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On va faire la pause, si vous voulez bien, dans cette émission en écoutant le chœur « Wir setzen uns mit Tränen nieder » tiré de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach.
Yeah. Présence.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour pour la seconde partie de cette émission où je retrouve sœur Anne-Claire Favry, professeure d'ecclésiologie à l'Institut catholique de Toulouse, Vincent Grégoire Delory, maître de conférence en philosophie également à l'Institut catholique de Toulouse, et le père Jean-Michel Poirier, vice-recteur de l'Institut catholique. Vous êtes tous professeurs à l'IERP et vous êtes membre du comité scientifique qui organise le colloque La synodalité en Église. Et maintenant, je rappelle qu'il a lieu à la salle Tolosa de l'Institut catholique les 9 et 10 avril. En première partie d'émission, donc, nous avons évoqué de manière assez générale le programme et les quatre temps donc de ce colloque. Ça commence le 9, le jeudi 9 à 9h. Quelle va être la première intervention? Quel va en être le sujet précis? Alors c'est Anne Ferrand donc du diocèse de Rodez, qui est la déléguée française du synode en 2023 et 2024, qui va intervenir. Et le titre de son intervention, c'est « Ce synode, une expérience d'église prophétique ».
Voilà, donc Anne Ferrand va nous faire un retour d'expérience de ces assemblées synodales. Et c'est elle qui a choisi ce titre. L'Église est prophétique en pratiquant la synodalité. Le synode lui-même est une expérience synodale, en fait. C'est dans ce sens qu'on a une expérience prophétique.
Donc ça va être sous forme de conférence.
Oui.
Est-ce qu'il y a des questions possibles à la fin des conférences du public ou est-ce que
bien
ça s'enchaîne?
Alors on y a réfléchi justement tout récemment. Généralement les après-midi, enfin les demi-journées avec des conférences qui se succèdent, comme souvent elles sont groupées deux par deux, il y aura la possibilité de poser des questions pendant ces deux conférences d'ailleurs. Et ce sont les deux conférenciers qui, après la seconde conférence, qui répondront, qui engageront un débat avec
le public, quoi. Avec ceux qui souhaitent dialoguer avec eux. L'intervention suivante, eh bien, c'est Monseigneur Alexandre Joly, l'évêque de Troyes, qui lui aussi a été membre du synode en 2023-2024. Le titre de sa conférence, j'imagine que c'est aussi une conférence, « Marcher ensemble, le document final du synode, un appel à la conversion ».
Voilà, donc Monseigneur Joly va nous présenter ce document très important qui conclut ce temps de synode. Et il va, je suppose, hein, puisque c'est le titre qu'il a donné, souligner cet aspect de conversion qui est très présent dans le document.
Ce premier temps là, du jeudi 9, le matin, hein, c'est le titre général, c'est « Relecture théologique de l'expérience synodale romaine ».
Et si je puis me permettre, Eric,
bien sûr.
Nous avons pris comme image, pour illustrer à la fois l'affiche et le programme, qui nous a été donné d'ailleurs par le synode romain, on voit des tables rondes avec les gens qui discutent. Et ça avait été en soi une nouveauté, c'est-à-dire qu'habituellement, les synodes des évêques, il y avait un grand amphithéâtre, il y avait ceux qui parlaient qui étaient une tribune, et puis les gens, voilà, les évêques étaient disposés dans un amphithéâtre. Et là, ils ont complètement cassé ce schéma. C'est donc dans la grande aula là, où lieu les audiences du pape en hiver. Et il y avait des tables, et donc les gens étaient, et le pape lui-même était autour d'une table ronde. Cela dit déjà une autre façon de penser et de vivre le dialogue en Église.
Alors, troisième intervention de la matinée du 9, ligne de fond théologique du processus synodal. Et donc là, c'est le père Christophe Théobald qui va intervenir, qui lui est vraiment un expert du synode.
Oui, tout à fait. C'est un expert du synode et un ecclésiologue. Donc, il va poser justement ces jalons théologiques parce qu'une bonne pastorale ne peut être que fondée théologiquement. Et en même temps, l'expérience elle-même est un acte théologique, en fait. Et la théologie pratique, ce n'est pas de la théologie fondamentale sur des sujets pastoraux. La pastorale elle-même nourrit la réflexion et porte la théologie. Et je pense qu'il va nous expliquer ça au cours de cette conférence.
Et dernière conférence de la matinée du 9. On va justement pouvoir expliquer un terme que le père Jean-Michel a déjà abordé lors de nos premiers échanges. Synodalité et collégialité. C'est le père Benoît-Dominique de la Soujolle, un dominicain de Toulouse, qui va intervenir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc synodalité et collégialité, c'est le moment de définir ce terme de collégialité.
Alors, la collégialité, j'ai envie de dire, c'est la synodalité spécifique du collège des évêques. Le Concile Vatican II a remis à l'honneur la notion de collège épiscopal, qui est comme la suite, je dirais, pour parler simplement, du Collège des apôtres. Les évêques sont les successeurs des apôtres, pas au sens où chacun est le successeur de l'un ou de l'autre. Sinon, on aurait bien du mal d'ailleurs à faire la filiation, puisqu'il y a un peu plus de 12 évêchés dans le monde. Mais en fait, c'est ensemble que les évêques sont le Collège des évêques et successeurs du Collège des apôtres. Et donc, c'est très important de réfléchir à la synodalité qui est plus large avec cette réalité qui a été remise à l'honneur au Concile Vatican II, mais que l'on vit sans doute plus explicitement dans l'Église aujourd'hui.
Donc ça se termine cette matinée, cette première matinée, par une messe avant la pause déjeuner, donc sur place bien sûr, je suppose. Et après cela, on reprend à 14h pour un deuxième temps de réflexion sur la thématique partage de pratiques synodales nées autour ou après le synode. C'est sœur Nathalie Bécard qui va intervenir la première. Donc elle est sous-secrétaire du synode des évêques. Et le thème de sa conférence, c'est Petit panorama de la réception du synode dans le monde.
Alors je crois qu'elle est effectivement bien placée pour cela, car de par ses fonctions, au service de l'Église universelle, elle est amenée à aller dans différents pays et sur divers continents pour accompagner notamment l'accueil et la suite de ce mouvement du synode des évêques et autres participants à Rome, peut-être de toutes les personnes présentes, je pense que c'est elle qui aura la vue la plus large sur ce qui se pratique, sur ce qui se vit et aussi sur ce qui se questionne actuellement dans le monde. Parce que je la vois de temps en temps, enfin on la voit, on lit des choses et on apprend, bah, tiens qu'elle est en Amérique centrale, tiens qu'elle est dans un pays d'Europe de l'Est, tiens qu'elle est en Afrique. Et donc, je pense qu'elle va pouvoir effectivement nous donner son regard et ça va être extrêmement apprécié. Et donc, après sa vue très large, eh bien, on va continuer avec, si je puis me permettre...
Bien sûr, le père Michele Roselli.
Voilà, le père Michele Roselli, donc ce vicaire épiscopal pour la formation. Donc, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, hein. Ça a déjà été présenté par Anne-Claire Favry, hein. À savoir que dans le diocèse de Turin, il travaille beaucoup les différents ministères, dans les ministères ordonnés, les ministères institués. Et dans les ministères institués, il y a principalement des laïcs. Et comment cela se vit, comment cela se cherche. Alors, attention, j'imagine que les uns les autres, ils vont nous dire aussi, mais voilà les difficultés qui se présentent. Voici les problèmes que ça pose. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un espèce de discours lénifiant où tout va bien et c'est merveilleux, hein. J'espère bien qu'on va aborder aussi les questions parfois difficiles, les questions qui fâchent, ou bien les obstacles qui se présentent, enfin j'imagine. Hein.
Les freins dont nous parlions tout à l'heure, ça va s'enchaîner. Alors il y aura deux intervenants qui nous viennent de notre province. D'abord le père Jérôme Pilaine, vicaire général, avec Laurence Sabrazès, donc tous les deux qui nous viennent du diocèse de Montauban. La thématique qu'ils vont aborder, ce sont les pratiques synodales dans leur diocèse, dans celui de Montauban. Donc là, on va avoir un retour du terrain.
C'est ça, oui, un retour. Alors oui, comme c'est mon diocèse, je les connais un petit peu. Et j'espère aussi qu'ils vont nous, enfin c'est ce qu'on va leur a demandé aussi, hein, qu'ils nous disent comment est-ce que le fait qu'il y ait une déléguée générale à côté du vicaire général avec l'évêque, comment ça change la manière même de fonctionner, de gérer le diocèse. Voilà.
Et puis on aura l'évêque de Carcassonne, Monseigneur Bruno Valentin, pour terminer cette seconde matinée. Les défis de sa synodalité dans un diocèse rural.
Oui, alors c'est de l'expérience et c'est vrai que c'est intéressant pour notre province parce qu'on a quand même un certain nombre de diocèses ruraux et même dans notre diocèse de Toulouse, une zone rurale importante.
Bien sûr.
Et c'est sûr que penser la synodalité en ville, c'est pas la même chose que de la penser en rural. Et on a mis, le titre, on l'a choisi ensemble, les défis. Parce qu'évidemment, se pose aussi, entre autres, le problème des ressources humaines. Parce
que c'est ce ne sont pas les mêmes que...
C'est pas la même chose.
À Toulouse, par exemple.
Et de construire une église synodale, finalement, avec peu de moyens, c'est un défi. Est-ce que c'est un défi qui est relevable ou pas? On espère bien qu'il va nous...
Et puis, ça peut être une chance.
Quels sont les moyens de le relever?
Ça peut être une chance.
C'est ça.
On en arrive à la seconde journée du colloque, celle du vendredi 10 avril, avec la thématique...
C'est la matinée avec les ateliers.
C'est celle des ateliers, donc réception de la dynamique synodale.
Voilà, alors il y aura en fait, notre idée c'était que les participants au colloque puissent aussi participer à des ateliers où il va y avoir une introduction faite par ceux qui animent l'atelier, mais c'est fait surtout des partages, des questions, des débats avec les participants donc à ce colloque. Ce qui veut dire que ceux qui vont venir, et puis alors ceux qui seront à distance, ça sera un peu plus difficile techniquement, mais on espère qu'ils pourront également intervenir grâce au chat notamment, c'est que dans ce colloque, il doit y avoir une participation active de tous, ce qui est cohérent avec l'idée même de synodalité. Vous voyez, parce que si on avait fait un colloque sur la synodalité en disant, ben voilà, on va vous expliquer que ce que c'est que la synodalité,
de
vous
façon magistrale,
une série de conférences, et puis après, merci d'être venu, et au revoir. Ça aurait été...
Donc il faudra mettre les actes en conformité avec les paroles.
Voilà. Et donc on va avoir trois ateliers. Alors il va y en avoir un donc pour lequel je voudrais faire un peu plus, peut-être un peu plus de publicité. Parce que dès qu'on parle de droit canonique ou quelque chose avec... là c'est le chemin canonique, c'est pas très engageant. Alors une des expériences que nous avons nous à l'IERP, c'est que les étudiants, ils sont bien obligés de faire le cours d'initiation au droit canonique parce que ça fait partie du cursus, et souvent, la plupart du temps, on a des témoignages à la sortie où ils disent « Mais c'est passionnant !» Mais c'est passionnant, on ne pensait pas que c'était aussi intéressant, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que le droit canon ? C'est le droit qui gère la vie concrète et quotidienne de l'Église. Alors, avec des bons enseignants, et nous n'avons que des bons enseignants à l'IERP, avec un bon enseignant, bien, il montre qu'en réalité, ça concerne ce que l'on vit habituellement. Et donc là, le père Pigny, qui est un excellent canoniste et un excellent juriste, puisqu'il était d'ailleurs à l'origine un juriste professeur à l'université d'Aix-Marseille.
Oui, il enseigne à la faculté libre de droit.
Et alors maintenant, il enseigne à la fois dans les deux facultés. Hein, et il nous parlera donc du chemin canonique resserré, la synodalité contemporaine. Voilà. Et comment... ça peut se vivre dans ces règles, voilà. Et puis, il y aura donc un second atelier sur la formation des acteurs ecclésiaux que j'aurai la joie d'animer avec Marie-Véronique Dupasquier, qui a à la fois l'expérience, elle est enseignante à l'IERP, mais elle est également encore responsable de la formation dans le diocèse d'Albi, et cela depuis des années. C'est une laïque qui a d'ailleurs soutenu brillamment sa thèse de doctorat en théologie il y a quelques temps. Et on essaiera de réfléchir sur la formation des acteurs ecclésiaux. Et ça, c'est une des grandes questions que nous nous posons, hein. Est-ce qu'on peut sérieusement dire à des laïcs, ben allez-y, prenez des responsabilités et ne pas leur donner la formation
qui va avec.
Et pas simplement la formation technique, hein, mais la formation théologique qui va avec. Voilà. Et puis le troisième, ça sera mettre en œuvre la synodalité en paroisse. Et là, ça sera un curé de paroisse, hein, mais qui est aussi enseignant chez nous, Édouard de la Portalière. Il est à Foix, lui, dans le diocèse de Pamiers. Et il y aura quelqu'un qui est également Violaine Deguet. Alors, je ne sais plus quelle est sa responsabilité, le sais-tu, Anne-Claire ?
En fait, elle travaille avec lui dans la paroisse. Et c'est lui-même qui a dit, mais on ne peut pas parler de la synodalité. Moi, je ne vais pas venir tout seul, curé, parler de l'expérience synodale en paroisse. Il y a quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, c'est lui qui a tenu à pouvoir faire cet atelier avec une personne engagée dans sa paroisse et dans ce processus synodal qu'il essaye de mettre en œuvre.
Mettre en œuvre la synodalité en paroisse. Ce sera la dernière intervention, le dernier atelier de la matinée donc du 10 avril, donc encore messe évidemment, pause déjeuner. On reprend à 14h le quatrième et dernier temps du colloque consacré à la thématique réflexion de théologie pastorale sur la synodalité pratique. Et ça commence avec les pratiques de discernement en commun, la diversité du peuple de Dieu convoqué par l'évêque. Vous voyez, vous convoquez quand même un peu aussi, vous n'invitez pas seulement dans les conseils épiscopaux. Chemin vers une synodalité pratique. Et donc c'est Marie Florin, qui est docteur en théologie, qui nous vient de l'université de Louvain, qui va intervenir à cette occasion. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet intitulé qui est assez long d'ailleurs ?
Oui, c'est cette question du discernement en commun. On l'a dit tout à l'heure dès le début, une église synodale, c'est une église où le discernement va se faire en église et non pas l'évêque autour, même si ça doit bien sûr s'articuler avec le presbytérium, je parle dans un diocèse. Mais comment on met en œuvre concrètement ce discernement en commun ? Comment on s'y prend en fait ? Pour se mettre ensemble à l'écoute du Saint-Esprit et discerner en fait ce que l'Esprit dit à l'Église.
Anne-Claire Favry, donc vous allez intervenir ensuite sur un thème spiritualité baptismale dans une Église synodale. Là aussi, ça mérite quelques explications.
Oui, alors le point de départ de ma réflexion, c'est justement les résistances qui sont pour certaines des craintes, parce qu'on entend bien qu'une vraie synodalité suppose une conversion. Et en fait, il y a deux aspects à la synodalité. Il y a cet aspect d'attitude spirituelle. Donc, quel positionnement spirituel il nous faut avoir pour que la synodalité soit possible. Et puis, il y a l'autre aspect institutionnel qui sera développé dans l'atelier du matin avec la question canonique. Mais du point de vue du chrétien, finalement, qu'est-ce qui fait que je vais être acteur de la synodalité? Eh bien, c'est les grâces de mon baptême que je vais mettre en œuvre. Et voilà ce qui est derrière ce titre.
Ensuite, nous aurons l'intervention de Gilles Routier, donc il est professeur d'ecclésiologie au Québec. Et on revient à cet aspect de formation, formée à la synodalité.
Voilà, alors le matin, dans l'atelier, on aura plutôt parlé de la formation des acteurs ecclésiaux en général. Et là, il s'agira plutôt de former à la synodalité l'ensemble des personnes, c'est-à-dire non seulement les laïcs, mais aussi comment est-ce qu'on forme aujourd'hui les futurs prêtres, ou les prêtres, ou les diacres, ou alors pas les évêques, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être formés, mais bien sûr que si. Et donc, parce que là, il y a un énorme enjeu. Mais comment on forme à la synodalité, voilà. Et là, on aura donc quelqu'un qui a une longue expérience. Puis c'est vrai qu'au Québec, ils sont aussi assez avancés, enfin assez avancés
sur la question,
sur ces questions-là.
Et donc, ça se termine avec une table ronde avec tous les intervenants présents, si je comprends bien.
C'est ça.
Alors, ça va consister en quoi? Un peu une synthèse de tout ce qui aura été dit, ou c'est une discussion beaucoup plus ouverte?
Alors, on partira aussi des questions, hein, voilà. Puisqu'on proposera. Proposera dans la salle et à distance de poser des questions aux intervenants. Et l'idée est qu'ils puissent répondre ensemble à leur manière, de leur point de vue, aux questions qui seront posées. Alors ça fera une synthèse, mais sans que ce soit une synthèse magistrale, simplement par le fait d'entendre ensemble un dialogue à plusieurs voix sur les questions qui seront posées.
Est-ce qu'il y aura une publication à l'issue du colloque de tout ce qui aura pu y être dit?
Oui. Nous l'espérons, nous allons la mettre en œuvre. Nous avons donc cette collection qui s'appelle Théopraxis, à l'IERP, et donc aux presses universitaires de l'Institut catholique, qui est publié chez Parole et Silence. Et donc nous publierons effectivement les principales interventions.
Recueil,
Alors on verra pour les ateliers s'il y a des éléments qu'on peut mettre par écrit et sous quelle forme. Mais oui, bien entendu, nous espérons et nous nous engageons à ce qu'il y ait une belle publication.
Alors, petit rappel pratique, il faut s'inscrire obligatoirement si on veut y assister, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et puis, c'est payant, il faut quand même le dire.
Oui, alors il y a quand même un certain coût, parce que vous l'avez entendu, on fait venir des personnes du Québec, de Belgique, d'Italie, de Rome, etc. Et donc, tout ça représente un certain coût. Alors, de toute façon, les sessions à l'IRP en général sont payantes, mais là, justement, on a fait un coût un peu moins important pour...
Donc, c'est 40 euros.
C'est 40 euros, aussi bien si on est en présentiel qu'à distance.
Voilà, voilà, c'est le même tarif.
40 euros pour les deux jours.
Voilà. Pour les deux jours. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si on a tout dit, mais je pense qu'on a fait le tour à peu près du programme de ce colloque. Et pour terminer, évidemment,
le mot de la fin.
Vincent Grégoire Delory.
Le mot de la fin, c'est difficile. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler avec vous, là, vous avez très bien présenté là, le programme, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que je ne suis pas spécialiste dans ces questions-là et je suis venu à ce micro souvent pour parler plutôt de vie, de biotechnologie et autres. Alors je me suis rendu compte en vous écoutant, en préparant ce colloque, à quel point la métaphore de l'Église comme corps vivant est vraie. Mm-hmm. C'est-à-dire que le vivant évolue, pas n'importe comment. L'Église évolue, pas n'importe comment. Je me souviens, c'est une fois de plus, Irénée de Lyon, quand il parle de ces questions, il dit qu'il faut qu'il y ait la tradition des apôtres, il faut qu'il y ait la continuité, la tradition de l'Église, la continuité apostolique, il nous faut la communion de l'Église, il nous faut discerner tout cela. Il vient d'être dit dans tout l'ensemble de ce programme, tous ces points-là, ces quatre points seront abordés. Et je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant de voir à quel point l'Église qui évolue, qui s'adapte, eh bien, s'adapte selon des... Finalement, comme le vivant, pas n'importe comment. Le vivant s'adapte comme il veut, sauf qu'il y a toujours la vie dedans. L'Église s'adapte comme elle veut, il y a toujours la révélation dedans, il y a toujours la tradition, il y a toujours la vérité de l'Église. Et donc, oui, donc, comme simple conclusion, je veux dire d'appeler un grand nombre de nos auditeurs à venir nous écouter, quelles que soient vos questions, quelles que soient les interrogations que vous posez. Vous avez entendu un programme extrêmement riche et qui pourrait, je pense, plus riche et dense en effet, et qui pourrait, je pense, intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous.
Nous sommes arrivés donc au terme de cette émission. Il me reste à vous remercier tous les trois d'y avoir participé. Merci de nous avoir présenté le programme et les intervenants de ce colloque, la synodalité en Église. Et maintenant, je rappelle qu'il a lieu à la salle Tolosa de l'Institut catholique de Toulouse les jeudis 9 et vendredi 10 avril. Les deux journées commencent à 9h. L'inscription est obligatoire et elle est payante. Le tarif est de 40 euros en présentiel ou en distanciel. Tous les renseignements et le programme du colloque sont disponibles sur le site de l'ICT, www.ict-toulouse.fr, où vous pourrez également vous inscrire. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Merci à tous de votre fidélité à Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.